il est 20h. Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonsoir à tous et bienvenue, chers auditeurs, sur Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Le deuxième débat de l'élection présidentielle a lieu ce soir à 20h40 sur les antennes de BFM TV et de CNews et réunit pour la première fois dans l'histoire politique française les 11 candidats à l'élection présidentielle sur un seul plateau de télévision. Mais, chers auditeurs, si vous nous écoutez ce soir, vous avez fait le bon choix. Toute l'équipe de Tous Politiques est réunie ce soir, rien que pour vos oreilles, pour analyser, décrypter et réagir à l'actualité politique de ces deux dernières semaines. Je suis ce soir en compagnie de Marie, de Maëlys, de Pierre et de Rémi. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Très contente de faire de la concurrence à BFM TV. On les emmerde.
On les emmerde. Et pour commencer cette émission, j'ai une question à vous poser. Je vais faire un petit tour de table et vous demander de réagir à l'actualité de ces deux dernières semaines en un seul mot, sans préparation aucune. Et je commence par Marie.
Là, maintenant, là, comme ça ?
Maintenant, un mot, le premier mot qui te vient à l'esprit pour résumer l'ambiance, l'actualité.
Lassitude.
Lassitude.
Édredon.
Édredon.
Émoulox.
On va te demander de développer un peu après.
Non. Maintenant, là, tout ouais, de suite, développer édredon, mais je sais pas, en un mot aussi. Canapé.
Canapé. Pierre. Merci, Pierre.
Mouchoir.
Mouchoir. Très bien.
Qu'est-ce que c'est que cette question, Mathias ?
Eh bien, c'était une expérimentation que je tenais à mener, et je vois que ce fut un échec. Donc, ce sera la première et dernière fois.
En une phrase, ce serait peut-être plus simple.
Oui, la semaine prochaine, ce sera en une
demandant
phrase.
D'y réfléchir à l'avance, ce serait peut-être plus simple.
Oui, moi j'ai eu cette chance.
Voilà. Et t'as sorti Edredon.
Il y a les privilégiés et il y a les autres.
Voilà, 3 heures de préparation pour sortir Edredon. Bravo, Serda.
Bon, je vais refermer cette parenthèse qui ne fut pas un succès, comme vous l'avez entendu, chers auditeurs. Et je me tourne tout de suite vers Marie, qui signe aujourd'hui sa deuxième participation à Tous Politiques. Et Marie qui va nous parler de
vote utile, Mathias.
De vote utile, eh bien, c'est à
utile,
toi, Marie.
Pas utile, hein.
Pas utile.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Bon, alors, on nous bassine beaucoup avec le vote utile en ce moment, vous aurez remarqué. En fait, j'ai mené ma petite enquête statistique, parce que les statistiques, c'est cool, sur Europress, la base de données journalistique. Alors, 2002, c'était un peu loin, mais j'ai au moins pu comparer avec 2007 et 2012. Eh bien, sachez-le, chers auditeurs et auditrices, la presse n'a jamais autant parlé de vote utile qu'aujourd'hui. Et encore, voter utile en 2007, d'après les articles, c'est Hollande qui appelle à voter pour Royal à l'issue des primaires socialistes. Niveau compromission des hommes et des idées, on a vu pire. Aujourd'hui, voter utile, c'est voter Macron parce qu'on est soi-disant de gauche et qu'il faut bien que la gauche passe. Voter utile, c'est le nouveau radeau de la Méduse d'un François Fillon qui ne sait plus dans quel Kinder Surprise acheter son ticket pour le premier tour, à défaut de se racheter une dignité. Voter utile, c'est le gros argument d'un Valls sans parole qui collerait à la seule force de sa salive toutes les affiches de campagne de Macron, oui, toutes, qui les lècherait bien à fond, oui, et qui les placarderait d'énormes Beaumont à Pau pour espérer se faire une petite place au chaud. C'est dégueulasse, je vous dis, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un bon pari, sachant qu'En Marche n'aura sans doute pas de majorité aux législatives et qu'on n'a donc pas trop idée de qui composera notre cher gouvernement. Voilà. Alors voilà, c'est ça le vote utile. C'est beau, c'est grandiose, c'est l'apanage des hommes et des femmes distingués. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais déçu que par ce qu'on aime. Les autres, ils ne nous déçoivent pas, ils ne font jamais que nous mettre en colère. Vous l'aurez compris, j'en ai assez qu'on me parle de vote utile. Assez qu'on me renvoie à l'idée que mon vote est potentiellement petit, dispersé, irréfléchi, pourquoi pas complètement con, qu'il est inutile, en somme. Sauf que l'idée du vote utile renvoie aux calculs et aux prédictions, appuyées sur des sondages, et pourquoi pas l'astrologie pendant qu'on y est. Les sondages, c'est comme la météorologie aux intercus, ça n'est pas une science exacte. Vous vous souvenez peut-être quand nous étions petits. Bon, sauf Rémi qui n'a pas eu d'enfance sans doute. Bref, vous étiez petits et vous jouiez aux...
Ça expliquerait bien des choses.
Alors, vous étiez petits tous autour de cette table et vous jouiez aux cartes Pokémon. Ou pire, aux cartes Yu-Gi-Oh. Et vous faisiez ce qui vous plaisait parce que vous ne compreniez rien à ces foutues règles à la con.
C'est vrai.
Eh bien maintenant, dites-vous que calculer le vote utile, c'est jouer à deviner comment vont voter les 45 millions d'électeurs, sachant que 10 millions vont s'abstenir ou voter blanc, et qu'en tenant compte des déçus, des primo-votants, des girouettes, des radicalisés, des vieux qui décéderont entre les deux tours et des trotskistes, il faut deviner comment va voter tout ce petit monde, et que comme indice, tu as moyennement 30 pièces, 36 sondages non concordants sur des échantillons de 3000 votants représentatifs. Mesdames et messieurs, faites vos jeux et on prend les paris du vote utile et rien ne va plus. Voilà. Comment voulez-vous prendre autant de paramètres et d'inconnus en compte pour parier sur le candidat du second tour qu'on veut voir gagner face à Marine Le Pen ? Est-ce que ce sera de ma faute à moi et à mon vote ? Si Le Pen se retrouvait à 20% à l'issue du second tour, est-ce que je n'aurais pas assez bien voté ? Mais la base d'électeurs convaincus de voter Le Pen, ils sont là, ils voteront Le Pen, quoi que je fasse. Est-ce que c'est de ma faute si dans ce foutu pays, la Front National gagne des points à chaque élection ? Ou encore, il y a 3 semaines, je vous parlais en revue de presse, autopromotion, de ces militants socialistes interviewés par Libé et plus ou moins décidés à voter Macron. Des gens qui déclarent quand même des choses du style « Macron, quand on compare au programme de Fillon, c'est un programme de gauche ». Ou encore, ils déclarent qu'ils ne voteront pas Hamon parce que Hamon est bien gentil, l'écologie, la jeunesse, mais est-ce bien réaliste, il faudrait la finance, l'industrie, les patrons derrière lui. Là encore, est-ce que c'est de ma faute si les socialistes ne sont plus de gauche, ni même plus socialistes, même pas un tout petit peu ? Mais si vous avez envie de voter pour défendre la finance, mais grand bien vous en fasse, mes enfants. Et est-ce que c'est de ma faute si partout dans les médias, on ne parle que des candidats, de leurs tronches, de leurs affiches, de leurs punchlines, de leurs emmerdes, et si peu de leurs propositions ? Allez regarder comment le JT de TF1 puis l'émission de Yann Barthès traite des programmes politiques, vous allez rire un peu. Rire un peu jaune, mais vous allez rire. Et ces mêmes gens viendront ensuite vous parler de sondages, de prédictions catastrophiques extrapolées sur des intentions pas encore arrêtées, de votes utiles et du dilemme cornélien qu'ils auront fabriqué tout autour. Alors j'appelle maintenant tout le monde à lire les programmes, tous les programmes, et à voter inutile. J'aimerais appeler tout le monde à voter convaincu et joyeusement aussi, mais ça, c'est malheureusement un peu plus difficile par les temps qui courent.
Merci Marie. Est-ce que certains souhaitent réagir à la question du vote utile ? Qui a envie de voter utile ici ?
Alors certainement pas moi, je soutiens complètement Marie et je m'apprêtais à dire la même chose dans ma propre chronique.
Ah mais très bien, et ben tu as donc 15 minutes pour la réécrire intégralement.
Mais ça tombe bien, je ne l'avais pas encore écrite.
Je sais pas si on peut parler d'envie, hein, mais moi je suis, on a tous le cul entre deux chaises, hein, je crois.
Mais Élise, aujourd'hui dans Confession d'intime.
Je sais que je vais pas voter. J'aurais l'impression de gaspiller mon vote en votant pour un candidat à 1% par exemple.
Voilà.
Exactement.
Moi ça me rappelle, il y a quand même énormément de personnes qui ne sont pas de notre génération et qui ont vraiment été traumatisées par 2002, qui sont généralement les tenants du vote utile.
Ouais, mais pas seulement, c'est ça qui fait un petit peu peur. Hein. Je veux dire, sinon, on ne nous bassinerait pas autant avec ça. Je veux dire, les vieux briscards de 2002, d'accord, mais...
Parce que les traumas sont de génération en génération.
Il faudrait bidonner les sondages pour que ceux qui votent Marine Le Pen se sentent dans l'obligation de voter autre chose pour voter utile et que ce ne soit pas, aux autres de voter utile.
Bon... On va quitter la politique friction.
Oh oh oh. La politique frite.
Enfin, je ne sais pas de quoi Pierre va nous parler, peut-être de politique friction ou...
Friction, oui. Fiction, hélas, non. Je vais vous parler de cette petite catastrophe au nom digne d'une pâte à tartiner qui vous fait mal au bide, le Brexit.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, Dites-moi, les amis, est-ce
que... Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Scandaleux.
Pierre est scandalisé par ce qu'il vient d'entendre.
Exactement.
Ce n'est Marie, sont-toi visé.
Oui, alors, bon, donc, tu avais une question à nous poser, les amis.
Oui, bah, dites-moi, les chers collègues, est-ce que vous savez ce qu'est l'anglosphère ? Et non, ce n'est pas un terme mathématique obscur que je sors des égarements d'un de mes amis scientifiques. Ce n'est pas non plus de la science-fiction. Enfin, si, enfin, plutôt, c'est un terme issu de la science-fiction qui pourrait devenir une réalité. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être, l'anglosphère ?
Rémi avait super envie de répondre, il était hyper frustré. Vas-y, Rémi. Appuie sur le buzzer.
Non, mais... Je n'en sais rien du tout. Je sais que je viens d'arracher les oreilles à la régie, mais à part ça...
Peut-être une nouvelle entité géopolitique issue du Brexit.
Ah, tu t'en rapproches. En fait, c'est l'ensemble des pays unis par la langue anglaise, par des valeurs communes.
Ah, et surtout... c'est la francophonie, mais de chez eux, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
Avec mais... leur noir à eux.
Mais on y rajoute aussi des valeurs partagées, des valeurs communes et un système juridique intimement proche. Pour le résumer plus simplement, c'est le regroupement des colonies britanniques où la population autochtone a été éradiquée. En fait, si je vous parle de l'anglosphère aujourd'hui, c'est parce que le croisement entre une ventouse raciste et un balai à chiottes qui se croit Thatcher a écrit une petite lettre de rupture à notre tout mignon Donald Tusk, déjà renié par son propre pays pour son travail bien fait. C'est donc il y a une semaine, mercredi dernier, la rupture a été officiellement officialisée et a donc commencé. Je dis bien commencé parce qu'il faut garder en tête que le Royaume-Uni a 2 ans pour négocier son retrait en bonne et due forme. Et croyez-moi, les autres pays ainsi que l'Union européenne ne sont pas prêts de laisser couler l'affaire si gentiment. Ça commence bien d'ailleurs, le négociateur de l'UE, le français Michel Barnier, a demandé à ce que les négociations soient tenues en français, bien sûr, un joli pied de nez assez sale rose bif. Imaginez leur tête, s'il y a bien un truc qu'ils n'ont pas réussi à coloniser, c'est l'arrogance diplomatique. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Britanniques n'avaient pas de véritable ligne directrice ni de plan à proposer pour les négociations, alors que l'Union européenne a déjà une équipe bien forte, composée par exemple de Guy Verhofstadt pour représenter le Parlement européen. Non seulement c'est un fédéraliste européen fervent ennemi de l'outre xénophobe qu'est Nigel Farage, Verhofstadt est aussi un ex-candidat à la présidence de la Commission qui a été refusé par les Anglais, bien sûr. D'un autre côté, allez donc trouver au sein des institutions européennes et des pays européens un seul type qui n'a pas une dent contre les Anglais. Après tout, je comprends pourquoi ils veulent tant se barrer. Non mais, sérieux, après tout, ils laissent des traces partout. Regardez à Chypre. 2 bases militaires qui prennent une place conséquente sur une île pas si grande. Et puis Gibraltar, caillou paumé au sud de la péninsule ibérique, véritable caillou dans la botte de l'Espagne. L'Irlande du Nord encore, bastion protestant sur une île catholique, refuge des derniers colons de notre continent. Mais il y a un truc qu'il nous faut savoir. L'Union européenne est une structure, certes, qui enferme et qui a parfois des conséquences négatives plus visibles que les positives, mais elle a le mérite de permettre la résolution pacifique des conflits. Tout ce qui était conflit armé il y a un siècle est devenu conflit ou coopération, n'oublions jamais, économique. Alors oui, on me dira, l'UE, ça a servi les peuples à la loi du marché, ça les prive d'un travail dans de bonnes conditions de vie, vive la révolution du prolétariat, abat les vilaines entreprises qui me fournissent ma nourriture, ma télévision, mon ordinateur et ma connexion internet qui me permettent d'écouter cette émission. Eh bien tout d'abord, allez donc au Kremlin sucer Lénine, parce que je préfère encore avoir ma chance niveau études et boulot plutôt que de me retrouver embarqué dans l'armée pour aller trucider mon voisin juste parce qu'il parle pas ma langue et que j'aimerais bien dessiner un truc sur ma carte ou avoir un morceau de territoire au soleil parce que j'en ai ras la casquette de cette île de merde où il pleut, où la bouffe est bouillie et où les gens votent pour le Brexit avant d'en demander les conséquences. Alors, c'est rigolo, messieurs les Britanniques, de vouloir redevenir indépendants après avoir colonisé la planète en étant encore le seul pays multi-ethnique qui fait tout pour interdire à ces nations d'avoir leur propre indépendance. Mais venez pas pleurer ou pire, envoyez l'armée, quand vous vous rendrez compte que vous allez perdre toutes vos jolies petites miettes d'empire. Rien que ce week-end, l'Espagne a annoncé ne pas envisager de bloquer l'accession de l'Écosse indépendante à l'Union européenne, alors que c'était là l'épine principale dans le pied des europhiles écossais. De plus, en ce qui concerne Gibraltar, qui je le rappelle a voté à 96% contre le Brexit, de par sa situation particulière, l'Union européenne prendra alors la défense de l'Espagne dans cette affaire, et peut facilement jouer la carte de la fin de la libre circulation, ce qui étoufferait ce petit territoire. Et tournons-nous vers l'Irlande, encore un camouflet pour les conservateurs xénophobes eurosceptiques qui veulent décider du destin des futures générations britanniques du haut de leur fauteuil politique sur lequel ils sont assis depuis que sont nées ces futures générations. En effet, après les élections législatives nord-irlandaises du 2 mars dernier, le Sinn Féin, parti pro-réunification, est devenu la deuxième force de l'Assemblée nord-irlandaise. Des négociations sont donc en cours pour la formation d'un gouvernement, mais le Sinn Féin s'y refuse. Ce qui a pour conséquence soit d'amener de nouvelles élections, soit d'avoir le contrôle direct du territoire par Londres. Or, Londres a explicitement refusé l'organisation de nouvelles élections. Alors pour la faire simple, le Royaume-Uni c'est actuellement le giga-boxon, avec Gibraltar qui risque de revenir enfin aux Espagnols, l'Irlande du Nord de rejoindre enfin leurs frères irlandais, et l'Écosse de rester dans l'Union Européenne dont ils partagent les valeurs. En bref, ce Brexit, c'est l'incertitude totale, le bordel pas possible, et les dirigeants britanniques, dans leur habitude d'arrogance aristocratique, font mine de gérer tout ça. Et leur dernière solution en date, c'est justement l'anglosphère, une union des peuples blancs qui parlent anglais, une solution miracle à la gueule de bois du Brexit. Alors, mettons d'abord de côté l'ironie dans la sortie d'une union parce qu'elle est trop unie quand on veut se tourner vers ces anciennes colonies qui ont pris leur indépendance. Un truc tout con qui unifie tous ces pays, à savoir le royaume pour l'instant encore uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, c'est le fait d'avoir encore la reine d'Angleterre comme chef d'État. Comme les défenseurs de l'anglosphère n'arrêtent pas de le répéter, chaque tentative d'établir une république dans ces pays au détriment de la chère Elisabeth II a échoué. En plus d'une mamie increvable comme emblème, ces pays partagent une langue. Enfin, si on met de côté les accents chelous des uns et les expressions tordues des autres. Après, ils partagent aussi une tradition juridique. Normal, me direz-vous, après des siècles de domination britannique sur des terres qu'ils ont rendues vides de toute autre personne que des Britanniques connaissant le système juridique britannique. Et surtout, dernier point très important de l'anglosphère, ils ont tous envie d'être très ensemble comme au bon vieux temps, n'est-ce pas ? Il paraît même qu'à terme, les États-Unis fassent partie de cette union de l'anglosphère. Il serait enfin temps de laver l'affront d'avoir été forcé par l'Union Européenne à abandonner les pauvres pays du Commonwealth et les rejoindre à nouveau dans un paradis de britannitude. Rien que d'imaginer ça, ça me donne des frissons. Imaginez donc une union de riches blancs qui parlent tous anglais, qui ont mis de côté les Québécois, les Indiens, les Sud-Africains pour boire ensemble leur thé et faire comme s'ils dominaient encore le monde après s'être sortis de la première zone économique mondiale et d'un des acteurs les plus influents du monde actuel. En bref, imaginez les Anglais faire leurs Anglais.
Merci Pierre pour cette...
Anglophobie.
Anglophobie notoire. Ouais. Bon, et juste après ce voyage en Angleterre et dans l'anglosphère, on revient en France avec Maëlys.
On revient en France, pas tout à fait, on revient en sciences politiques.
sciences politisphère, qui est une sphère internationale.
Et non, plus précisément, on va revenir dans les débats politiques à la télé et sur le canapé avec nous, les téléspectateurs.
D'accord, très bien.
Voilà.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors bonjour Mathias, bonjour tout le monde. Alors vous vous souvenez, j'espère, il y a 2 semaines, je vous parlais de la communication politique à propos du fameux débat sur TF1, donc des éléments de langage et des slogans utilisés par les hommes politiques pour convaincre les petits téléspectateurs que nous sommes. Bon, on avait pu voir avec quelques outils de la science politique que les stratégies mises en place par les médias et les hommes politiques pour être les plus percutants possibles étaient plus ou moins efficaces. Donc l'un des biais de cette analyse poussée à l'extrême serait de voir une espèce de complot avec des médias manipulateurs, conspirationnistes, et des téléspectateurs pas plus éveillés que des légumes, voire des éponges qui absorberaient mécaniquement ce que la télé veut bien leur faire avaler. Donc le fameux temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Bon, Mathias. Je sais que tu ne dors plus depuis 2 semaines et que tu attends frénétiquement l'épisode 2, le bien nommé, que j'ai nommé en fait des téléspectateurs pas si cons que ça, cette semaine. Donc fin du suspense.
Je suis très content de l'apprendre.
Et nous sommes prêts avant le débat de ce soir. Donc l'influence des médias n'est pas si mécanique qu'il n'y paraît. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui en m'intéressant cette fois aux côtés des téléspectateurs et lecteurs qui sont plus ou moins rationnels. Donc la première chose que l'on peut dire, c'est que notre vision du téléspectateur un peu mouton qui ne sort pas de nulle part en fait. Au départ, si vous vous souvenez bien, on a eu l'importation de l'individu ultra rationnel, stratège, intelligent, importé par la science politique en fait de l'économie. Donc on se souvient de la théorie des lecteurs rationnels d'Anthony Downs, donc seuls les vrais auditeurs de Tous Politiques qui écoutent depuis le début savent, seuls les vrais savent. Et ensuite on a eu le mouvement de balancier inverse avec un individu téléspectateur, Bernard, Perméable et apathique. Donc c'est comme ça qu'il a été théorisé en fait par une partie de la science politique des médias à partir des années 1940, derrière Harold Laswell et sa modélisation de la communication unilatérale, donc qui dit quoi à qui, par quel moyen, avec quel effet. Donc sans beaucoup de rétroaction. Donc Laswell en fait définit l'action des médias à partir du modèle dit de la piqûre hypothermique, car il explique en fait que les médias injectent leurs messages et leurs opinions dans le corps social comme le ferait un médecin avec une seringue dans le corps de son patient, pas très actif du coup, et pas très, donc c'est pas très réaliste. Sauf peut-être pour les téléspectateurs de Touche pas à mon poste, comme Nicolas Dupont-Aignan en a fait le pari délirant. Bon, désolé pour ce mépris de classe, mais je pense que celui qui ne pense pas la même chose que moi autour de cette table me jette la première pierre.
Oh, ça va, on tape sous.
Donc cette vision passive du téléspectateur et lecteur a par la suite en fait été un peu prolongée par le paradigme du Michigan dont je vous avais parlé lors de ma chronique sur les déterminants du vote. Mais alors, encore une fois, seuls les vrais savent. Donc Philippe Comte-Verse, ça vous dit quelque chose, Mathias ?
Du tout.
Pourquoi tu vous vois Mathias tout d'un coup ?
Bon, si je vais dire ça vous dit quelque chose, vous tous, et après j'ai dit Mathias. Bref, donc Mathias, je ne te félicite pas, les autres non plus. Donc Philippe Comte-Verse, dans La nature des systèmes de croyance dans le public de masse, en 1964, distingue plusieurs types d'électeurs en fonction de leurs opinions plus ou moins affirmées concernant la vie politique et l'intérêt pour les élections. Donc positionné sur une échelle de deux pôles en fait. Donc il parle d'attitude politique, c'est-à-dire de capacité des personnes à adopter des points de vue donnés. Donc d'une part, on a les idéologues qui ont des opinions très stables et très tranchées, donc les plus structurées. Et d'autre part, à l'autre bout du spectre, on a ceux dont les opinions sont les moins stables, qui ne connaissent rien du tout au programme des partis, etc. Donc au milieu, on a tout un nuancier de personnes qui ont des opinions plus ou moins connectées à des positions politiques. Et on a un ensemble d'individus qui n'ont pas vraiment d'opinion réelle sur un sujet, donc avec ce que Comte-Verse appelle en fait des non-attitudes. C'est-à-dire que les individus donnent des réponses aléatoires, ce sont un peu des girouettes, ils sont très apathiques. Donc Comte-Verse souligne qu'on a peut-être de grandes évolutions historiques qui ont été faites dans des situations où des individus n'avaient pas vraiment d'opinion politique structurée, pour le meilleur et pour le pire, hashtag la montée du nazisme. Et donc, qui était plus enclin au changement et à la révolution. Bref, on a là une grosse remise en cause de la rationalité des citoyens avec une thèse souvent présentée comme le paradigme minimaliste, dont avec une compréhension minimale de la politique en fait, comme le dit élégamment la science politique, pour ne pas dire le paradigme des électeurs teubés. Donc tout ça pour planter le décor. Maintenant les nuances. Là, pour vous en mettre un peu en appétit, je vais vous donner plusieurs exemples de nuances par lesquelles trouver une voie médiane en fait entre ces deux extrêmes de l'électeur hyper rationnel et l'électeur un peu concon. Donc et pour nuancer aussi le rôle des médias et l'influence des politiques. Donc en 55 par exemple, première nuance qu'on peut arguer, qu'il y a Katz, Liu et Lazarsfeld dans leur ouvrage Personnel Influence qui ont déjà critiqué... Vous faites les marioles, hein. Vous n'êtes pas très sérieux.
C'est l'animateur.
Surtout Mathias. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Répétez. Katz, Liu et Lazarsfeld dans Personnel Influence critiquent déjà l'hypothèse de la seringue hypothermique de Laswell. Donc pour eux, en fait, les opinions des médias sont médiées par des leaders d'opinion qui vont reconstruire les opinions, etc. et qui vont influencer leur groupe de proches. Donc ils arguent en faveur d'un rôle médié indirect, plutôt indirect du coup des médias. Donc par exemple, votre grand-oncle Robert, par exemple, patron de PME en carte au MEDEF, qui est certainement un relais utile pour vous faire une idée des réformes à mener pour restaurer l'économie française.
S'il est patron de PME, il n'a pas sa carte au MEDEF.
Ah, pardon. Bon, bref, sympathisant MEDEF, c'est pas incompatible.
Oui, un autre syndicat de patrons.
Un autre syndicat de patrons. Donc, ensuite,
tous les mêmes.
Ensuite, autre concept intéressant, en fait, celui des certains chercheurs dans les années 1980 ont élaboré des concepts un peu rigolos et novateurs pour nuancer le débat électeur teubé versus électeur intelligent. Donc le chercheur, par exemple, Ken Weaver, a par exemple retourné le paradigme avec le concept de blame avoidance, donc éviter le blâme. Dans de nombreux cas, en fait, les acteurs politiques ne cherchent pas à obtenir du crédit, mais à limiter le blâme des électeurs téléspectateurs. Ce n'est plus le politique tout puissant qui discourt à la télé, mais au contraire le politique constamment jugé et évalué par un public tout puissant. Donc Fillon et ses costumes. Preuve qu'on peut aussi prendre le sujet à l'envers. Enfin, il faut aussi peut-être complexifier le phénomène de réception du discours médiatique par des individus qui ont aussi une démarche plus réflexive. Alors là, je vais parler d'un autre effet, c'est l'effet de troisième personne, donc the third person effect, théorisé par le politologue Davidson en 1983. Donc ça, c'est un de mes concepts préférés, c'est pour ça que j'en parle. Donc Davidson, c'est intéressant parce qu'il introduit en fait la variable médiatique dans le diptyque homme politique électeur. Donc les individus vont prendre en compte l'effet des médias sur les autres individus et vont le surestimer. Donc le vote utile, par exemple, aussi. L'exemple qu'il développe, en fait, c'est l'impact des tracts faits par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et lâchés sur les régiments américains en Asie. Donc, en fait, ces tracts jouaient sur les clivages ethniques et s'adressaient directement aux Noirs pour les désolidariser des États-Unis. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est une hausse des désertions, mais pas spécialement une désertion des Noirs comme on l'aurait pensé au premier abord, mais au contraire, une désertion des Blancs qui ont pensé que les Noirs allaient déserter, que ça allait mal tourner et qui, du coup, ont plus déserté. Donc, d'où en fait l'hypothèse qu'il ne faut pas forcément présumer le mécanisme cognitif derrière une même pratique ou un même phénomène. Donc Macron qui crie un meeting suivi d'une hausse des intentions de vote à son encontre, c'est peut-être aussi un effet troisième personne, avec des individus pensant que la com de Macron sera effective sur les autres, et donc il voudra parier sur le cheval qui monte. Vous y penserez donc ce soir en regardant la télé. Donc des modèles assez convaincants ont été élaborés plus récemment, ce sont ceux dits du citoyen raisonnant, donc à mi-chemin entre le citoyen supercalculateur comme un ordinateur et le citoyen légume. Donc là c'est mon dernier exemple que je vais vous développer de manière un peu plus approfondie, et c'est celui de John Zeller dans The Nature and Origins of Mass Opinion en 1992. Donc Zeller a élaboré un modèle très large pensant que les interactions entre demandes et offres politiques lors des élections, mais aussi la place des médias, mais aussi la place des médias et les élites dans la constitution des choix politiques. Donc on a vraiment un modèle qui englobe tous les acteurs. Donc il reprend à ce titre toute la théorie des effets de cadrage et des effets de saillance que nous avions vus dans la précédente chronique, hein, si vous aviez bien écouté. Donc je ne vais pas revenir sur ce point-là, il faudra réécouter le numéro précédent de Tous Politiques. Donc son point de départ, c'est une opinion, il parle en fait d'une opinion exprimée ou formulée, donc dans un sondage par exemple, c'est le plus réaliste, mais ça peut être aussi au PMU du coin ou dans un repas de famille. Donc comment formuler une opinion politique? Donc à la base des opinions, en fait, selon Zeller, il y a des considérations. Donc les considérations, ce sont des fragments d'arguments ou d'argumentation qui vont être produites par les individus, les élites politiques ou par les médias, et qui vont circuler dans les médias, dans une société, à un moment donné, etc. Donc par exemple, ou dans les discussions politiques entre les individus. Par exemple, dans les sondages, on va poser des questions très synthétiques sur des enjeux beaucoup plus complexes. Donc à chaque fois, on va agréger un ensemble de problèmes sur lesquels l'individu peut avoir des opinions contradictoires entre elles, et une même personne peut tenir du coup en fait des discours très contradictoires sans y prêter attention. Donc la contradiction va apparaître au grand jour quand on va demander aux individus de tenir une réflexion argumentée, Guillaume Meurice. Et qui fait exactement ça, en fait, dans ses chroniques tous les jours sur France Inter. Donc, tout le monde me dira qu'on est très proche des packages interprétatifs de Gamson et Modigliani, si vous vous souvenez bien, la dernière fois. Mais là, en fait, Zeller complexifie un peu l'équation. Donc, le rôle des élites politiques et la façon dont elles structurent les opinions des citoyens va être prépondérant dans son analyse. Donc, les acteurs élus des partis politiques, dans la théorie de Zeller, en fait, l'essentiel des considérations va être produit délibérément par des médias, des lobbies, des élites politiques. Et cet ensemble de considérations, en fait, va être repris par les individus à leur compte. Donc, ça permet de penser les discours médiatiques et politiques qui vont avoir une certaine influence sur les individus. Donc, les individus passent leur temps à faire des cadrages pour créer des raccourcis cognitifs. Les élus vont passer leur temps à faire des cadrages pour créer des raccourcis cognitifs pour les individus. Donc, en fait, c'est quoi un raccourci cognitif? Ce sont des choses, des éléments de cognitif, en fait, de réflexion qui vont permettre de réfléchir plus vite. Donc, par exemple, j'ai un match sur Tinder, je me rends compte qu'il est fan de Céline Dion, j'en déduis que c'est un gros beauf, j'en déduis qu'il n'est pas pour moi. Hashtag mépris classe.
Ah bah oui.
Voilà.
C'est pas qu'un peu.
Donc ça, on identifie par proxy, c'est-à-dire qu'on a la variable gros beauf, et on va estimer la variable gros beauf à partir de la variable, par exemple, tuner sa voiture ou écouter Céline Dion. Je ne sais pas si vous...
Oui, mais si c'est une personne qui écoute Céline Dion, c'est... parce qu'il aime les films de Xavier Dolan.
Ça complexifie
la donne.
Non, j'ai pris Céline Dion de manière un peu arbitraire, mais ça pourrait être... On est toujours le beau de quelqu'un, de toute manière.
C'est toujours la Céline Dion de quelqu'un.
Ça fait. Mais voilà, du coup, ça vous donne une idée de ce que c'est l'identification par proxy. Donc c'est là que ça devient intéressant, parce que les individus en fait ne sont pas passifs avec les considérations qu'on essaie de leur faire gober et ou les salades qu'on leur raconte en fait. Ils vont essayer de se repérer, ils vont utiliser des indices, des clues, avec le triptyque réception, acceptation, échantillonnage. Donc receive, accept, sample. Donc là je vais expliquer un peu plus. En gros, les individus, ils y ont aussi intérêt parce que ça leur permet de réfléchir plus vite. Donc réception, donc ça dépend plus ou moins de l'intensité de leur lecture ou de leur suivi des médias. Donc les individus vont être plus ou moins influencés par les cadrages de ces derniers suivant les médias qu'ils vont consulter, etc. Acceptation, les individus ont des prédispositions ou des socialisations différentes qui font qu'ils vont différer dans la manière dont ils vont accepter, interpréter les arguments, les intégrer et les reprendre à leur compte. Et enfin, l'échantillonnage, c'est la sélection. Ils vont en fait sélectionner les considérations dans leur formulation dans les sondages ou auprès de leurs proches, quand ils vont exprimer leur opinion. Donc pour Zahler, en fait, c'est cette combinaison de facteurs qui va faire que les individus vont différer leur manière d'être influencés par le discours des médias, qui vont être plus ou moins sensibles ou plus ou moins indécis. Donc en fait. Et ce sont les individus au milieu des deux pôles extrêmes qui vont être influencés par le discours des élites politiques. Donc voilà, tout n'est pas si simple. Les médias ne sont pas de grands méchants conspirationnistes, illuminati, sionomaçonniques, francs-maçons. Et en fait, les individus font aussi leur marché et ne sont pas dupes en fait de ce que leur raconte. Voilà. J'espère que avec cette chronique, vous serez un peu mieux armés pour le débat de ce soir. Même si je suis bien d'accord avec vous, c'est rigolo, les concepts d'économie et de sciences politiques, mais ça ne console pas du marasme politique ambiant.
Merci Maëlys. Et donc là, je rappelle que le débat de ce soir a commencé depuis une bonne vingtaine de minutes, sachant que tous les candidats n'auront pas plus de 17 minutes par personne pour parler de sujets comme l'économie, la société, la défense, l'international,
etc. La vie, l'amour, la mort au XXIe siècle.
À peu près tout ça.
Et eux-mêmes,
bien sûr, puisque on est l'idée de
personne. Surtout pour Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, Maëlys, tu me donnes une transition parfaite, puisque nous allons passer des médias à ce que j'appelle une forme de sémiologie du quotidien, puisque oui, je fais de la sémiologie politique à mes heures perdues.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Dans le deuxième numéro de Tous Politiques, je revenais sur tout le cérémonial entourant les affiches de campagne à l'occasion de la primaire de la droite sans le centre. Maintenant que la campagne est bel et bien lancée, presque tous les candidats ont dévoilé leurs affiches de campagne, plus ou moins définitives, ainsi que leurs slogans et leurs logos, pour certains. Et donc je vous propose quelques coups de sonde pour regarder de plus près ce que cachent ces images et ces mots. Ce qui est frappant, c'est la lente dispersion de la mention des partis politiques sur les nouvelles affiches. Exit la rose du PS, le air barré des Républicains ou la flamme du FN. Comme en 2012, Marine Le Pen cherche à faire peau neuve en passant au ripolin son image de candidate d'un parti d'extrême droite et de candidate du népotisme. Elle a déjà tué le père, il suffisait maintenant de couper toute référence à la PME qui la finance. Plus aucune mention au Front National, histoire d'attirer les trois abrutis qui ne connaissent pas le nom du parti du clan Le Pen. Et pour ratisser encore plus large, pourquoi se limiter au logo ? Marine Le Pen s'est tout bonnement amputée de son nom de famille pour se faire appeler Marine. Mais si, tu sais, camarade Marine, la camarade. Bref, Marine, elle est sympa, on l'appelle par son prénom, puis à la limite, c'est une femme, et une femme, ça n'a pas besoin d'un nom de famille, n'est-ce pas ? Ségolène, Martine et Roselyne pourront témoigner. Je remarquerai juste que Marine Le Pen titre « Marine présidente » pour toucher la ménagère de plus de 50 ans, là où Ségolène Royal, autre femme présidentielle en son temps, titrait « La France présidente ». Et je tiens à rappeler que le procès en culte de la personnalité était déjà lancé. Plus de flamme chez Le Pen, mais une rose, et une rose bleue, en forme d'épée, ou de balai à chiottes, comme diront certains. Quand je vous disais que Marine ratisse large, la rose des socialistes et le bleu de tous les partis de droite. Mais sinon, l'UMPS, c'est les autres. Et avec tout ça, elle promet la France apaisée, en ordre. On lui dit que c'est juste une autre façon de vendre le fameux law and order, mais façon sympa, cool, maternelle, gentille. Bref. Fillon aussi a viré le logo, pas beau, des Républicains. Mais on a en droit de se demander si ce ne sont pas plutôt les Républicains qui lui ont pas demandé de ne pas mettre leur logo sur son affiche. Et il a aussi mis un slogan, lui qui pourtant jurait de ne pas en avoir un. Et ce slogan, c'est « Une volonté pour la France ». Rapidement raturé et corrigé en « Un vol pour la France ». Sinon, l'affiche est austère, à son image. Pour vous dire, même Hamon n'a pas mis la rose du PS ni le logo de la Belle Alliance Populaire. À la place, un hashtag Hamon2017 et les logos de tous les réseaux sociaux disponibles sur le marché. Parce que Hamon, il est jeune. Il est jeune et il est dans le coup. Trois couleurs dominantes sur son affiche, le bleu de son costume et des encarts rouges et verts pour bien rappeler que les écolos sont de son côté. Et toujours le même slogan, faire battre le cœur de la France. Un cœur à gauche, donc. Enfin, vu l'état de sa campagne, il pourrait changer de slogan et préférer faire fonctionner le défibrillateur du PS.
Vincent Lambert, si tu nous entends.
Je ne cautionne pas. Mais j'en viens tout de suite au gros du gros. Celui dont on attendait tous l'affiche comme Christine Boutin attend le retour du Messie. Emmanuel Macron a dévoilé son affiche de campagne. On a droit à toutes les nuances de bleu. Un camailleux de bleu. Du bleu de ses yeux à son costume bleu en passant par sa chemise bleue et son bandeau bleu clair et avec un slogan écrit en bleu foncé. Si avec ça, vous n'avez pas compris qu'Emmanuel Macron est de droite, je ne peux plus rien pour vous. Vous me demandez son slogan, le voilà. La France doit être une chance pour tous. Après le mariage pour tous, c'est vrai que la chance pour tous, c'est beaucoup moins clivant. Reste à savoir si sa campagne est financée par la Française des Jeux. Je terminerai avec Jean-Luc Mélenchon, car son affiche a fait beaucoup parler. On se souvient tous de son affiche de 2012, fond rouge et énorme. Prenez le pouvoir, parce que Jean-Luc, il a le couteau entre les dents, vous comprenez. Là, on dirait l'affiche d'un agneau, d'un bébé agneau tout gentil. Mélenchon sourit presque, et oui, parce que ça lui arrive parfois. Il a lâché la cravate pour montrer qu'il est de gauche, c'est un signe. Il s'est placé devant un fond bleu aérien, très calme, et avec un slogan édulcoré, « La force du peuple », écrit en lettres blanches. Sans doute en écho direct et en opposition au slogan de Le Pen, « Au nom du peuple ». Jean-Luc, il ne parle pas à la place de ni au nom du peuple, il cherche à faire advenir le peuple comme force politique. Lui aussi ne fait pas mention d'un quelconque parti, exit le front de gauche ou le parti de gauche, place à la lettre grecque phi. Alors, pour les ignares qui n'ont jamais fait de grec, phi, c'est la première lettre du mot philosophie et du verbe philein, qui veut dire aimer. Mais phi, c'est aussi le son des initiales de son mouvement de Méluche, la France insoumise. F-I. Phi. Malin, hein.
Moi, je fais une dédicace à Nicolas en régie qui, s'il pouvait s'exprimer sur ce plateau, s'opposerait fortement à cela. Parce qu'il y a un défaut de prononciation, mais bref. C'est autre chose.
Bon, comment veux-tu que je prononce Phi?
Apparemment, c'est une histoire de paix aspirée.
Bref.
S'il est en régie, ce n'est pas pour qu'il parle, après tout.
Phi, ah oui, donc voilà, donc Nicolas me le dit en régie, bon. Oui, bon, bref, un son, une lettre grecque, plutôt que des initiales, PS, LR, FN, NPA, LO, c'est moche, c'est trivial, et Méluche, lui, il va directement au ciel des idées, à l'essence. Bref, il est platonicien, notre Jean-Luc. Et comme il est platonicien, il sait que les images ne sont que des dégradations de l'idée. Et je vous laisse réfléchir là-dessus.
Oula.
Oula, oh là là.
Et oui, c'est une fin abrupte.
Ah bah, assez ouvert.
Parce que je n'avais pas de conclusion. Et tout de suite, comme je n'ai pas de conclusion, je passe tout de suite la parole au moment que les auditeurs
de Tous Politiques... Voilà, on va redescendre du ciel des idées à Rémi.
Ah mais oui, c'est intéressant là, aussi. Là, on descend d'un bon cran.
Oui, attention, on va visiter de belles cavernes, chers auditeurs.
Une caverne, une grotte, des ombres, tout ce que nos auditeurs aiment et attendent.
Des compressions.
Et de la scatophilie.
Bon, ça va, oh.
Bon, beaucoup d'adjectifs, mais en attendant, nos auditeurs réclament Rémi. Et donc, bonjour Rémi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous raconter, chers auditeurs, qu'en ce moment, ça va pas trop.
Dans Tous Politiques sur Transistor.
Oui, alors c'est un biais d'humeur, on parle de son humeur. Ben là, je suis un peu triste, on va dire. Ouais, triste pour Manuel Valls, évidemment. Non, enfin, attendez, quelle déchéance, le pauvre. Non, il aurait pu, hein, genre, rester humble, poster une annonce sur Le Bon Coin, Vendignité, pas cher, très peu servi. François Fillon lui aurait racheté pour un ou deux costumes. Mais non, non, devant tout le monde, hein.
Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron.
Non, vous avez vu ça, s'étaler comme ça en public, enfin, est-ce que c'est pas un drame? Vous savez, on a l'impression, c'est un petit peu le type qui s'est fait larguer devant tout le monde par sa copine et qui se promène dans la rue avec son zizi tout mou dans sa main collante et demande à tous les passants « t'es sûr que tu veux pas ?» Non mais c'est fou ce que certains sont prêts à faire pour avoir un fauteuil en cuir dans un ministère. Après avoir matraqué la France entière, il rentre comme un cul-de-jatte aux 400 mètres et c'est dramatique. Et alors qu'il était là à se prosterner en agitant ses fesses, « Allez, Emmanuel, s'il te plaît !» Et hop là, il se fait jeter par Macron. Manquait plus que ça. C'est ce moment où quand t'as tellement besoin d'affection que tu fais un câlin à tes excréments et puis là, d'un coup, ils te disent que tu pues. Enfin, c'est... Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment peut-on tomber si bas? Il vient, il lui cire les chaussures de marche avec sa langue et l'autre se retourne tranquillement à arpenter la fange qu'il élira président. Reparlons un peu de Macron, d'ailleurs. Vous savez, le candidat open bar, sans peur et sans programme. Le nouveau lubrifiant de l'ultralibéralisme. Le caniveau recueillant les fuites des vieux partis percés. Le Christ en plastique des classes moyennes à 4x4 rutilant, trop riche pour voter Le Pen, mais trop con pour se rendre compte que c'est la même chose, pardon. L'espoir de ceux qui ne savent plus avoir d'espoir digne, finalement. Dans Macron, c'est un petit peu comme ces machines à dons de sperme qu'ont inventé les Japonais, vous savez. T'es dans une espèce de petite pièce fermée par un rideau, tu t'offres passionnément à un beau produit tout brillant, à la fin t'as cette impression bizarre d'avoir pris ton pied sans vraiment comprendre pourquoi, ni avec qui. Bref, j'ai l'impression de t'être fait baiser, mais je vous refais pas l'histoire de la troisième voie. Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça, moi? Ah oui, le meeting de Marseille.
Du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier, je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains.
Ouais, ça dure encore. Hein.
Les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais. Les Ivoiriens!
195 pays.
J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités! Mais je vois quoi? Des Marseillais! Je vois quoi? Je vois des Français!
Et je vois quoi? Je vois quoi? Non mais c'est quoi ça? Et les trous du cul? Et les abrutis? Allez Marseille, est-ce que vous êtes là? Ouais, et allez les gars, on tape dans ses mains, allez! Bon, malgré les petits problèmes de synchronisation avec la régie, vous avez un petit peu compris l'idée. Et en parlant de chaussures de marche, j'en viens à ce qui devait être le vrai sujet de cette chronique, mais j'ai déjà écrit deux pages sur Emmanuel Macron. Le débat qui a lieu en ce moment même sur des chaînes de télévision concurrentes à celles que nous n'avons pas lancées pour ne pas bouffer tout leur audimat. Bon, 3h30 de débat, 11 candidats. 17 minutes par candidat. Hein. Ça veut dire seulement 17 minutes pour Emmanuel Macron, le pied, mais 17 minutes entières pour Jean Lassalle. Vous savez, Jean Lassalle, ce candidat qui a parcouru 6000 km à pied pour rencontrer les Français, il devrait fonder un mouvement, l'appeler En Marche. Ce mec qui s'est fait connaître pour ce coup d'éclat à l'Assemblée nationale.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient
Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle?
Oui, voilà, c'était en 2006. Bon, vous voyez, ça promet le débat. Vous savez pas ce que vous êtes en train de rater à écouter Transistor. Je résume un petit peu. Donc, vous avez un jeune morpion déjà sacré roi, 5 perdants qui font comme si, parce qu'il faut bien atteindre les 5%, et puis les 5 candidats du vote inutile, donc. Ceux qui ont encore des idées plutôt que des discours. Et du coup, tout le monde se fout de leur gueule parce qu'on sait bien que c'est pas comme ça qu'on gagne une campagne. D'ailleurs, que connaissez-vous de François Asselineau, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade? Si ce n'est que l'un est un gros bonhomme un peu complotiste et qu'un autre a un nom rigolo et un vrai métier pour payer ses costumes. Non, rien, parce qu'ils sont comme les Français, un peu fades, sans scandale, sans solution pour changer le monde parce qu'on leur en demande pas. Parce que tout le monde s'en fout de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils sont sur le point de se faire enfoncer une fois de plus en des tuyaux que nul plombier ne viendra déboucher, cette moissonneuse-batteuse féroce qu'on nomme élection. Parce que comme nous tous, ils ont déjà perdu finalement. L'élection leur donne peut-être l'occasion de faire entendre leurs idées, comme elle nous donne l'occasion de faire entendre notre impuissance ou de mesurer le diamètre de notre anus. Pour ça, on les aime bien, enfin en tout cas, je les aime bien, remarquez le caractère exceptionnel de ce propos dans mon billet. Mais on va voter utile, bien sûr. Voter pour le cancer plutôt que pour la peste, parce qu'il se voit moins. Je parlais de la dignité de Manu Valls au début de cette chronique, abandonné dans le caniveau d'une ruelle sale entre une capote utilisée et un clochard mort. Et la nôtre. Et celle des fameux petits candidats. Mais je commence à me dire que c'est pas dans un bureau de vote qu'on va la sauver.
Et non, c'est sur Transistor que vous allez la sauver. Et c'est terminé pour ce soir, pour tous politiques.
C'était donc pas sur Transistor que vous allez la sauver.
Alors c'est terminé pour ce soir sur tous politiques, puisque je vais aller courir regarder le débat de ce soir pour pleurer un peu. Et donc c'était Tous Politiques, une émission de Mathias Soubiz. Je remercie Marie Lécuyer, Maëlys Barre, Pierre Lemuel et Rémi Cerda, ainsi que Nicolas Auvray à la régie. Je remercie aussi toute l'équipe de NS Média pour la diffusion de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.transistor.fr et nous retrouver sur Facebook à la page Tous Politiques sur Transistor. En attendant, restez informés et regardez le débat, car si la politique n'est pas tout, nous sommes Tous Politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton, veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.